Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 13 août 2022. Vous suivez la radio Nzamba à Gatekakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Une attaque armée a été perpétrée contre des positions militaires dans la Kibira jeudi dernier, suscitant la panique au sein de la population de la colline Buyumu en zone Nelugadi de la commune Kabarole en province Kayanza, proche des positions visées. Il faut des enquêtes sur la mort de la femme du colonel de police Nikoyagize Nicolas, habitant au quartier Gifunzo du chef-lieu de la province Lutana. Les enquêtes sont demandées par les voisins qui soupçonnent que la femme serait morte suite à la maltraitance de son mari. Et puis cela fait 18 ans que plus de 150 Banyamulenge sont morts calcinés dans un camp de réfugiés à Gatumba, en province Bujumbura. La communauté des Banyamulenge exige toujours justice pour les siens. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Les habitants de la zone Moussaga, plus précisément à la 2e avenue près de l'église méthodiste libre, disent avoir assisté à une exécution extrajudiciaire d'un homme non identifié dans la nuit de jeudi à vendredi. Un groupe de policiers commandé par le chef de poste de police à Moussaga et le chef de quartier Kinanila 1 sont pointés du doigt pour avoir planifié et exécuté cet homme. Son corps aurait par après été transporté par la police vers l'hôpital clinique Prince Louis Gogasore. Suivez ce témoignage.
C'était à 2h30 quand nous avons vu des policiers à la tête desquels se trouvait le chef du poste de police à Moussaga. Il y avait également trois hommes en tenue civile et le chef du quartier Kinanila 1, surnommé Gapesi. C'était sur le pont de la rivière Mimba, à la 2e avenue de la zone Moussaga, à l'entrée du quartier Kinanila 1, plus précisément en bas d'une église méthodiste libre. Ils sont dirigés vers un atelier de menuiserie. À ce moment, le chef de quartier a donné l'ordre d'abattre l'un des trois hommes en tenue civile que les policiers avaient conduit à cet endroit. Le policier l'a alors tué de 4 balles. Après quelque temps, nous avons vu une voiture à bord de laquelle se trouvaient plusieurs policiers. Ils se sont entretenus pendant un moment avec le chef de poste et le chef de quartier. Ils ont donné par la suite l'ordre de tirer sur les deux autres civils, mais ils auraient par après changé d'avis puisque ces deux hommes n'ont pas été abattus. Ils sont plutôt partis avec ces policiers. À l'aube, le chef de quartier est revenu sur le lieu du crime, accompagné de policiers. Ils ont déshabillé le corps sans vie de la victime que nous n'avons pas pu identifier. Le cadavre aurait alors été conduit à la morgue de la clinique Prince Louis Ouagasole. Nous voudrions qu'il y ait une enquête pour que l'identité de la personne tuée soit connue, parce qu'ils ont fait disparaître les éléments qui auraient pu permettre de l'identifier en lui ôtant ses habits.
Pour en savoir plus sur cette exécution, la rédaction de la radio Nzamba a contacté par téléphone le chef de quartier Kinanila 1, connu sous le nom d'Ogapes, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Une femme du quartier Gifunzo, du chef-lieu de la province Lutana, est morte dans des circonstances non encore élucidées. Certains des habitants de ce quartier disent qu'elle serait victime de coups et blessures lui infligés par son mari, le colonel de police Nikoyagize Nicolas. Ni la police, ni l'administration ou encore les responsables sanitaires n'ont effectué aucune enquête pour donner la lumière sur cette mort. Pierre Gahungu.
Menedor Nijimbere est morte la nuit de mardi à mercredi, selon les informations qui proviennent des voisins de la victime. Elle aurait été victime des coups et blessures lui infligés par son mari, colonel de police Nicolas Nikoyagize, après qu'une bagarre a éclaté entre ses époux la nuit de mardi. Selon la même source, cette femme n'était pas en bon terme avec son mari, qui l'accusait de ne pas avoir d'enfant. Les voisins de la victime affirment qu'aucune enquête n'a été effectuée sur les circonstances de la mort de cette femme, car son mari a effectué les démarches de mettre le corps de son épouse à la morgue de l'hôpital Lutana sans aucune enquête, ni policière, ni administrative. Selon nos informations, le colonel de police Nicolas Nikoyagize est cité dans plusieurs violations graves des droits de l'homme envers les manifestants contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza dans la zone Moussaga en mairie de Bujumbura. Après, il a été muté au commissariat de police à Gihofi, en commune Mukemba de la province Lutana. Les voisins de la victime demandent qu'une enquête indépendante soit faite sur cette mort. Suite à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas encore eu la version du commissaire de police dans la province de Rutana.
Merci Pierre Gahung. Un enfant a échappé de justice à la mort après avoir été grièvement blessé à l'aide d'une machette. Des soupçons se portent sur deux Imbonerakure. Cela s'est passé la nuit dernière en zone Muyebe, commune Musigati de la province de Mubanza. Les malfaiteurs n'ont pas encore été trouvés. Le point avec Georges Nimenya.
Les informations qui nous parviennent du lieu du drame nous disent que les gens qui ont commis le forfait sont deux jeunes Imbonerakure qui avaient l'intention de tuer un vieillard de la localité qu'ils accusaient de pratiquer la sorcellerie. Mais c'est finalement son enfant qui est tombé dans le piège des malfaiteurs. Un des témoins raconte.
C'était deux Imbonerakure, l'un s'appelle Tororo et l'autre connu sous le sobriquet de Kanyenyeri. En réalité, les deux Imbonerakure avaient l'objectif d'aller éliminer un vieux monsieur qui s'appelle Sukuli qu'ils accusaient de sorcier. Ils ne l'ont pas trouvé à la maison et c'est ainsi qu'ils s'en ont pris à son enfant. Ils ont méchamment et sérieusement battu l'enfant à l'aide d'une machette jusqu'à sortir les entrailles de son ventre. Après, ils se sont volatilisés dans la nature, croyant que l'enfant était mort. Mais heureusement, l'enfant est encore en vie. Il est dans un état critique et reçoit maintenant des soins à l'hôpital d'Omanda. Son papa a été recherché par ses Imbonerakure pour sorcellerie.
Les auteurs de cette barbarie circulent toujours dans la nature et ne sont pas encore inquiétés. La population demande à la police et à la justice de tout faire pour les identifier et les traîner devant la justice. La rédaction de la radio Inzamba n'est pas encore parvenue à avoir la réaction de l'administrateur communal de Musigati à propos de ce forfait.
Georges Nimenya, je vous le disais dans les titres, c'est la peur panique au sein de la population de la colline Buyumo en zone Lugadi de la commune Kabarole en province Kayanza. Le matin de jeudi dernier, des positions militaires de la Kivira ont été la cible d'une attaque armée perpétrée par des inconnus. Les habitants de cette localité demandent le renforcement des forces de l'ordre et la communication des administratifs locaux pour appeler au calme. Selon eux, depuis le jour de l'attaque, l'administration n'a toujours rien dit sur les faits. Plus de détails avec Bera Mugisha.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzamba au sein de la population de Buyumu dans la zone Rugadi de la commune Kabarole font savoir que le matin du jeudi dernier, c'est avant-hier, les habitants de cette localité ont été réveillés par des crépitements de fusils et détonations de bombes dans les localités de Kugunguruwe et Kukirumbi. Les deux localités se trouvent à l'intérieur de la Kibira et c'est dans ces lieux qui se trouvent deux positions militaires de l'armée. Des sources au sein de l'armée dénombrent des dizaines de blessés qui ont été évacués via Bujumbura et Ndola pour enfin être acheminés vers Bujumbura. Les habitants de Buyumu n'ont pas eu écho de ce qui s'était passé dans la Kibira. Seul l'administrateur de la commune Kabarole et quelques représentants des Imbonerakure ont eu accès des lieux et ont tous eu comme consigne de ne rien révéler à propos de cette attaque. Et c'est toujours un silence radio du côté des administratifs. Depuis jeudi dans la journée, c'est le calme relatif et plusieurs mouvements des militaires en patrouille. Néanmoins, les habitants de Buyumu sont pris dans une peur panique.
Nous avons entendu des crépitements de fusils et de détonations. Ceux qui ont eu l'accès sur les lieux, ce sont les représentants des Imbonerakure, les forces de l'ordre et l'administrateur. Aucune autre personne n'a eu accès à ces lieux. Nous demandons le renforcement de la sécurité pour que nous puissions dormir calmement parce que nous craignons une attaque de ces hommes armés dans notre localité.
À la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe, nous avons essayé de contacter par téléphone Barkimas Saguye, administrateur de la commune Kabarole, et le colonel Rémi Chicharay, gouverneur de province Akayanza, pour qu'ils puissent éclairer l'opinion sur cette attaque dans la Kibira, mais sans succès.
Inzamba. Poursuivons ce journal par la 18e commémoration ce 13 août du massacre des réfugiés congolais Banyamulenge. C'était en 2004 dans la zone Gatumba en province Bujumbura, non loin de la frontière entre le Burundi et la RDC. L'attaque contre ce camp des réfugiés avait par la suite été revendiquée par le mouvement rebelle par les Pahutu FNL par le biais de son porte-parole de l'époque, Pasteur Habimana. Plus de 150 Tutsis de la communauté Banyamulenge y ont péri, une centaine d'autres blessés. 18 ans après, justice n'a pas encore été faite pour les victimes, ce que regrette la communauté Banyamulenge. Cette dernière dénonce le laxisme de la justice burundaise et internationale vis-à-vis des auteurs de ce drame. On écoute Alex Nung de la communauté Banyamulenge. Il est aussi chercheur et analyste politique de la région des Grands Lacs.
166 citoyens congolais sous la protection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont été tués à Gatumba dans un camp des réfugiés. Les victimes ont été brûlées vives, infligées des souffrances extrêmes le 13 août 2004. Des centaines étaient blessées. La majorité étaient des femmes et enfants de la communauté Banyamulenge. Les victimes cherchaient la protection pour la énième fois après une oppression politique et la chasse à l'homme dans la région du Sud Kivu, mais aussi dans la province de Katanga à Vira. Chaque année, la communauté Banyamulenge s'est réunie pour rappeler à la communauté internationale les pays de la région des Grands Lacs et tous les acteurs de justice que la promesse faite aux survivants, à la communauté Banyamulenge, pour une justice équitable, n'a pas été accomplie. Les criminels, comme Agathe Rwasa, circulent librement dans la ville de Bujumbura, et les autres collaborateurs sont en RDC. Cette année, nous demandons encore une fois, et nous rappelons que nous ne serons pas fatigués à chercher la justice. Mais nous rappelons aussi que ce genre de crimes, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité continuent à être perpétués dans la région du Sud Kivu, en RDC, contre la communauté Banyamulenge, qui sont ciblés pour leur faciès. Ils sont ciblés juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont nés.
Au cours de l'année scolaire 2021-2022, la province Kayanza a enregistré environ 19 000 cas d'abandon, dont 17 900 de l'école fondamentale et 1 150 du poste fondamental. 8 660 sont des filles et 10 490 garçons. Dans 9 communes que compte cette province, celle de Kabarole a pris le devant avec 3 415 cas. À la direction provinciale de l'éducation, on attribue en général ces abandons à la pauvreté sévissant dans les ménages et au relâchement aussi bien des parents que des enfants sur l'importance de l'école. Pour les jeunes filles, certaines d'entre elles abandonnent pour se marier précocement, pendant que pour d'autres, c'est suite à des grossesses non désirées, si bien que pour le cas d'espèce, il a été identifié 70 cas au cours de la même année. La coalition des défenseurs des droits humains des personnes vivant dans des camps de réfugiés, CBDH Vicar, s'insurge contre les propos du représentant des réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ce représentant a mis en garde toute personne qui donne des informations en provenance de ce camp. Selon Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH Vicar, toutes les informations recueillies dans ce camp sont vérifiées avant d'être diffusées. On l'écoute.
La CBDH Vicar a été étonnée d'avoir entendu les propos des représentants des réfugiés à Nyarugusu, selon lesquels la plupart d'informations diffusées par les défenseurs des droits de l'homme et médias sont mensongères. Et je voudrais d'abord lui signaler d'écouter via la Voix d'Amérique la conférence de presse tenue mardi dernier par le porte-parole de la police tanzanienne, donc dans la commune de Kiwondo. Il a bien précisé, il a dit qu'il y a des réfugiés burundais qui ont été tués, kidnappés, même si il n'a pas pu préciser les commanditaires de ce crime, ces organisations et médias dont il parle ont fait des enquêtes sur les actes de violation, ont pointé du doigt au gouvernement burundais et celui de la Tanzanie. Il y a eu des preuves tangibles, par exemple, et parmi les réfugiés qui ont été disparus, et oui, parmi eux, ont été retrouvés dans les prisons centrales au Burundi. Il y a beaucoup de rapports sur la situation des réfugiés burundais en Tanzanie. À titre d'exemple, on peut dire le rapport de Human Rights Watch sorti en novembre 2020, le rapport sorti en avril 2021 par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Si j'ai une bonne mémoire, kudos aux mémoires, les Nations Unies pour le droit de l'homme a aussi sorti un rapport sur le même sujet. Tous les rapports ont confirmé que la Tanzanie, en collaboration avec le gouvernement du Burundi, sont derrière ces actes de violation. Après que la Tanzanie a trouvé que les représentants du camp ont joué un rôle prépondérant dans la préparation des rapports ou bien au cours de ces enquêtes, elle a pris la décision de les remplacer par le comité dirigé par son nouveau représentant. Cela nous montre alors que la Tanzanie a voulu tout simplement amener des gens qui vont être, je dirais, sa couverture. Nous demandons à la Tanzanie de régler son problème d'insécurité par le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés.
Le mini-magazine d'aujourd'hui se focalise sur le problème des terres chez les autochtones au Burundi. Au cœur de la société, vous est présenté par Émile Nivasomba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ceux qui ont des terres parmi eux possèdent de petits lopins au Burundi. Les Batois souffrent du manque de terres depuis plusieurs décennies dans un pays où la terre est considérée comme l'un des piliers de la vie et du développement. Y a-t-il une solution à ce problème? C'est le sujet de notre mini-magazine au cœur de la société du 13 août 2022. Vous êtes avec Émile Nivasumba. Le problème de terre est de plus en plus senti au fur et à mesure qu'il y a une croissance démographique au Burundi. Mais les Batois sont les plus touchés par rapport aux autres ethnies parce qu'ils souffrent de ce problème depuis longtemps. Nos confrères de la radio Inzamba ont parlé à certains Batois des différents coins du pays.
Nous avons un petit lopin de terre que nous partageons à 5. Ça appartient en fait à notre mère parce qu'elle aussi elle partage une petite terre avec ses 5 petits frères. C'est compliqué. Quand je gagne 2000 francs, j'envoie ça comme ça à la famille. Je vends des chaussures et je suis hébergé par des gens ici.
Si j'avais une terre, je n'allais pas venir vivre ici dans ces conditions. J'ai grandi dans ces conditions déplorables. Je passe des journées à errer ici à Bujumbura. Que le gouvernement se dépêche et nous donne des terres parce que nous savons cultiver.
J'ai une terre, mais c'est très petit parce que nous sommes une grande famille. Nous avons soumis la question à la ministre là et nous a envoyé des anciens députés. Ils ont fait des listes et promis de nous donner des terres, mais il n'y a jamais eu de suite.
En 2008, l'association Uniproba, qui milite pour les droits des Batois au Burundi, a recensé environ 80 000 Batois dans tout le pays. Unissons-nous pour la promotion des Batois a précisé que plus de 86% de ménages avaient des terres, mais qu'environ 60% de ces ménages des Batois avaient des terres d'une superficie inférieure à 5 ares. Le 9 août dernier, alors que le monde entier célébrait la Journée internationale des peuples autochtones, la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, Imelda Sawushimike, elle aussi de l'ethnie Twa, a dit qu'au Burundi, la discrimination a disparu. Peut-on alors dire que les droits des Batois ne sont pas bafoués dans le pays, surtout dans ce secteur de possession de terres? C'est la question que nos confrères de la télévision Renaissance ont posée au vice-président du réseau des citoyens probes, Gervais Niwigira.
Si on voit comment les peuples autochtones vivent au Burundi, ils ont mené une vie de nomade. Et cela est dit alors à l'histoire, mais aussi c'est dit au peuplement du Burundi. Ces derniers ont eu une vie qui n'est pas comparable à celle des autres peuples burundais. Et il serait inconfessable, par exemple, de dire que ce sont des peuples des anciens du Burundi, qui n'ont pas de terres propres à plusieurs provinces du pays. On entend toujours qu'il y a des demandes qui sont adressées à l'administration pour qu'ils aient aussi des terres propres à eux. On ne peut pas dire qu'ils ont été discriminés, c'est pas vrai. soit du peuplement, nous demandons, nous insistons que le gouvernement prenne des mesures pour qu'il donne des terres pour se développer le pays. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre de la poterie, mais aussi de l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement, les pots qu'ils vendaient aujourd'hui ne sont plus à l'heure. Parce qu'il y a d'autres instruments qui sont aujourd'hui à l'heure.
En 2017, l'association UPARED a dit avoir recensé plus de 216 000 batois au Burundi. Le pays comptait à l'époque plus de 10 millions d'habitants. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 13 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Denis Basumba. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
C'était l'émission au cœur de la société.
Terminons comme tous les samedis par la revue de presse hebdomadaire et c'est avec Karine Doussavé.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Indamba, Agathe Kakaoué, à cette revue de presse de ce samedi 13 août 2022. Société pour commencer, Chibitoke, deux ponts menacés d'effondrement, les orpailleurs pointés du doigt. Titre le journal SOS Média. Les deux ponts sont érigés sur les rivières Nyamagana et Muhira dans les communes Rugombo et Buganda de la province Chibitoke. Les activités intenses d'exploitation des minerais d'or sont les causes principales. Si rien n'est fait, d'éventuels accidents peuvent surgir. Les députés élus dans la circonscription de Chibitoke sont au courant de la situation, mais rien n'est encore fait pour sauver l'infrastructure. Karen Widzodza, gouverneur de la province Chibitoke, met en garde les orpailleurs auxquels il promet des sanctions s'ils font la sourde oreille. Cette autorité promet des travaux de réhabilitation dans les jours à venir. Poursuivons cette revue avec le journal Iwachu qui évoque un désordre qui s'observe à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Inspiré par une information qui a circulé sur les réseaux sociaux parlant de mauvaise qualité des services rendus par le personnel de cet aéroport, Marie-Chantal Nijimbele, des transports, a effectué une visite à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Elle a déploré le désordre qui s'y observe tout en demandant au personnel de fournir plus d'efforts dans l'accueil chaleureux des voyageurs. Domaine du transport avec Burundi Eco, transport lacustre des hydrocarbures, à quand son efficacité, s'interroge le journal. L'interrogation n'est pas que du journal, elle est aussi des opérateurs économiques burundais. Tous se demandent pourquoi passer 10 ans sans que des transporteurs d'hydrocarbures n'utilisent les voies ferroviaires et lacustres alors qu'elle est la moins chère. Les avis recueillis par le journal convergent sur le fait que ces voies offrent plus d'avantages, ce qui pourra impacter sur le prix d'autres marchandises au profit du consommateur. Répondant aux questions du journal Burundi Echo, Gabriel Ufidi, président de l'ULUCOM, a indiqué que les voies ferroviaires et maritimes ne sont pas utilisées par les importateurs des hydrocarbures pour protéger les intérêts des grands pétroliers propriétaires des camions. Bouclant cette revue de presse par l'agence burundaise de presse qui parle du trafic du café, Parche sur la colline Karama de la commune Kabarore en province Kayanza. Ce mardi 9 août, 171 kg de café Parche ont été saisis par la police en transit vers le Rwanda. Deux des 8 propriétaires du café ont été appréhendés par la police, conduits par la suite au cachot de la commune Kabarore. Le café saisi est gardé au bureau de la commune Kabarore. Pour éradiquer cette fraude, Bekimas Sarguye, administrateur de la commune Kabarore, demande à la population de rester vigilante et dénoncer tout commerce jugé illicite. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous terminons cette revue. À la présentation, vous étiez avec Karine Doussavé. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Karine Doussavi, c'est par vous que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Indamba, Agathe Kakaoué, pour la production de ce journal. Merci à vous également, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.